Eh bien, bienvenue à tous. Merci d'être là. Aujourd'hui, on a voulu mettre en avant ce livre Charbonnier, donc porté par l'association Culture Ailleurs, qui nous a paru qu'on a trouvé un travail assez magnifique, finalement, autour de cette technique ancestrale. Tu préciseras peut-être.
Ouais.
Et du coup, pour le présenter, ce livre, on a Monsieur Philippe Anus qui est là, historien, qui fait partie de Culture Ailleurs, pardon.
Philippe.
Et Julien Le Bedez, pardon. Voilà, on était dans l'autre sens tout à l'heure, c'est pour ça. Et qui vont présenter ce livre, du coup, qui a une particularité de mise en page. Donc c'est un beau livre, on peut le classer là-dedans. C'est qu'il est peut-être pris dans les deux sens, voilà. Avec, du coup, une partie qui va dévoiler plus la technique du charbonnage végétal et une autre qui va... et aussi toute une partie artistique, donc des photographies, des dessins. Et puis une autre partie qui va s'intéresser plutôt à l'historique du charbonnage. L'explication de l'évolution de cette technique aussi. Et voilà, du coup, peut-être expliquer déjà pourquoi l'association Culture Ailleurs a souhaité prendre ce sujet.
Ouais, ok.
Je t'en prie, vas-y.
Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Donc en fait, Culture Ailleurs, donc juste pour resituer un petit peu, c'est une association qu'on a fondée il y a... plus de 25 ans, on va dire. Et juste pour la petite anecdote, en fait, notre envie, en fait, c'était de voyager. Et le premier voyage qu'on a fait, on avait tout un projet, on avait écrit un gros projet en disant, allez, on part en Afrique. Et en fait, on s'est dit, non, on va pas prendre l'avion, on va y aller à pied. Et on va y aller en autostop. Enfin, et en fait, c'est vraiment ce qui a marqué... l'éthique et puis le fonctionnement de Culture Ailleurs, de se dire allez, on prend le temps de faire les choses, et surtout dans ce temps là on crée des espaces où on cherche la rencontre. Et donc c'est pour ça que dans ce livre là en fait on a énormément finalement de champs d'action, de recherche autour du charbon, parce qu'on a désiré en fait prendre le temps d'installer ce projet autour du charbon et de creuser, d'aller voir. Bon, après vous verrez, il y a des scientifiques, des historiens, plein de sciences, on va dire, différentes. Donc il y a une autre envie en fait de travailler autour du charbon, parce que en fait en Afrique on a beaucoup traîné et beaucoup travaillé avec des forgerons. Et naturellement, eux, ils utilisent donc le charbon. Et puis, il y a toute cette histoire du feu, du métal, tout ça. Donc, c'est vraiment des choses, en fait, qui nous ont toujours animés. Et puis, en plus, le collègue avec qui j'ai commencé, qui est aussi charbonnier, lui, il est vraiment dans la partie de la ferraille, le travail du fer. Donc, tout ce qui est autour du feu, c'est quelque chose qui le passionne. Nous on continue donc à des projets en Afrique. C'est pareil, c'est vraiment des projets qui sont plutôt en zone rurale, et on a une partie de notre travail qui est aussi en zone rurale dans le département de l'Isère, et puis un peu plus large sur la région Rhône-Alpes. Donc voilà un peu comment on est arrivé à tomber dans cette envie en fait d'installer des choses sur le long terme. Et en travaillant sur le Trièves, on a commencé à travailler sur un projet de création de spectacle, parce qu'en fait au départ, oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous le dire, c'est une association de projets artistiques et culturels. Et on a travaillé en fait sur la création d'un spectacle en forêt, et on s'est intéressé en se disant, bon alors c'est quoi l'histoire des forêts dans le Trièves, etc. Et on est tombé en fait sur effectivement la vie en forêt a été bien nourrie, et la forêt a bien été utilisée par des charbonniers pendant très longtemps, et notamment en fait beaucoup de charbonniers qui venaient d'Italie, et ça Philippe en parlera bien mieux que moi. Donc à partir de là, on a monté un spectacle, on a fait une performance en forêt et on s'est dit, mais en fait, c'est complètement magique en plus de bosser en forêt, de vivre ça, de passer du temps parce qu'il fallait construire tout notre spectacle en forêt, tout ça. Donc ce spectacle autour des charbonniers, on l'a rejoué plusieurs fois et on a rencontré en fait une autre association donc à Travers Corps, qui est de l'autre côté du plateau, donc sur la chapelle, qui eux faisaient en fait des revivre le métier d'antan et puis aussi avec une manière un peu libre de faire ces choses-là, d'occuper la forêt. Donc on s'est bien entendu. Donc on est venu jouer le spectacle et eux ils faisaient leur charbonnière. Et suite à cette rencontre vraiment magique, nous on a eu envie de se dire allez, nous aussi on veut apprendre à faire du charbon sur cette technique ancienne qui était vraiment les meules ancestrales, donc du bois bien rangé avec une cheminée centrale recouvert de terre, de feuilles et avec une cuisson très lente qui durait pendant une quinzaine ou trois semaines, où ça dépendait de la taille de la meule. Et donc on est rentré par là dans ce projet-là en disant allez, nous aussi on construit notre charbonnière. Donc ce qui est vraiment magique parce que c'est vraiment quelque chose de vivant en fait, la charbonnière, il faut la surveiller jour et nuit. Il y a des moments ça s'effondre, on l'entend crépiter, la fumée elle change de couleur, il faut reboucher les trous, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous possède au bout d'un moment. On vit complètement en osmose avec cette meule en fait qui est en même temps en train de devenir du carbone et en même temps c'est très organique quoi. Donc on a construit une cabane autour au col des Papavés, on a fait notre grosse charbonnière et puis là comme on est des artistes, on a fait des spectacles, on a fait des projections de cinéma, des gros repas avec les gens, avec les spectateurs. Donc on a travaillé avec le parc, l'ONF, les communes, les comités des fêtes. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait on aime bien la rencontre en fait, parce que parler des charbonniers, bah évidemment c'est tout de suite ça allait tiens mais oui effectivement moi j'en ai connu ou hop et ben, puis hop les gens comme c'était un métier d'antan, tout de suite ça vient aimanter on va dire les gens des villages aux alentours. Et donc voilà, on a passé, avec la construction de la cabane, on a passé à peu près 4 mois à construire tout ça, à faire des spectacles. On l'a refait une deuxième fois l'année d'après.
C'était en quelle année ça ?
Ça, c'était il y a... C'était
en 2003.
Attends, donc 2009.
Ok.
C'est en 2009. Hein. Les photos de 2003, je crois que c'est des photos...
une expérience plus ancienne.
Voilà.
Ok.
Donc on a refait une deuxième et au bout de la deuxième on s'est dit mais en fait parce que comment on aime questionner le passé, le patrimoine, mais en même temps avec une vision artistique vraiment contemporaine, en utilisant en fait cette histoire qui a fait notre territoire, qui a fait notre imaginaire. Mais en même temps, voilà, comme on est artiste contemporain, on a envie d'aller plus loin que refaire vivre des métiers d'antan. Donc on a laissé un peu en veilleuse quelques années là. Ben, on a toujours la cabane, on l'avait gardée, tout ça, mais en disant bon, on verra ce qu'on va en faire, on verra. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit ah, mais le charbon a eu raison de nous. Et on y est revenu. Et en fait, on a commencé à creuser un peu le charbon, qu'est-ce que c'est ? Oui, effectivement, on l'utilise pour faire du barbecue. C'est du charbon de bois, donc oui, bon, il y a cette fonction-là, mais il y en a des tas d'autres. Et quand on s'est mis à creuser, ce qui nous a fait complètement rêver, c'est que il y a moins 6000 ans avant Jésus-Christ, en fait, en Amérique du Sud, ils utilisaient en fait le charbon pour l'agriculture. Donc en fait, c'est des terres qui sont encore extrêmement riches. Parce qu'en fait ils ont incorporé en fait du charbon, et cette terre en fait pourtant c'était des terres qui étaient lessivées, qui étaient extrêmement acides, et le fait d'avoir du charbon à l'intérieur et des bouts de poterie a rendu en fait cette terre extrêmement fertile. Donc ça nous a fait complètement rêver en disant mais en fait oui, et puis après on s'est mis à creuser, mais en fait oui, c'est utilisé aussi dans dans l'eau, pour filtrer l'eau. Enfin, après, on s'est remis à bouillonner autour de toute cette histoire-là. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, mais en fait, les charbonnières d'antan, ça pollue énormément. Enfin, il y a beaucoup de gaz qui s'en vont, etc. Donc, on a été un petit peu plus loin et on a trouvé des Anglais qui fabriquaient un four un peu plus technologique, on va dire, et qui est sur un système de recyclage des gaz, donc qui fonctionne en autonomie, en fait, qui est un système. En gros, le bois qui est charbonné, le bois qui est chauffé au départ par un feu de bois, au bout d'un moment, il y a de la vapeur d'eau qui s'en va. Et quand on atteint 450 degrés, on ferme des cheminées. En fait, le bois en chauffant continue à produire un gaz. Et ce gaz, en fait, il est renvoyé dans la chambre de combustion et en fait, il finit par s'auto-alimenter. Donc, autour de ça, on a eu envie de dire ce serait bien de trouver des applications. Donc on a commencé à tisser des liens avec Terre Vivante qui avait un labo pour essayer de faire des tests avec des agriculteurs dans le Trièvre pour incorporer du charbon dans la terre, voir comment ça pouvait réagir, etc. Après, finalement, on s'est rendu compte que mettre du charbon dans la terre, en fait, c'est pas instantané, ça prend énormément de temps, l'action du charbon en fait en terre. Ça prend énormément de temps. Juste, je vais peut-être t'expliquer pourquoi ça prend énormément de temps. En fait, ça prend le charbon. En fait, ça a la particularité en fait d'être spongieux. Donc, en fait, ça retient l'eau. Mais ça a une autre particularité, c'est que c'est microporeux et offrir des abris pour tout ce qui est champignons, microbactéries. Et ça leur fait un abri en fait pour se développer. Et du coup, en fait, ça facilite en fait la régénération de la vie dans le sol. Et ça, il y a toute une partie bien technique là-dessus. Donc voilà. Donc on a eu cette première expérience avec Terre Vivante et on a eu en fait l'opportunité de rencontrer un ingénieur agronome, donc David Houben, qui a écrit une grosse partie de la partie technique sur l'utilisation du biochar, en fait, du charbon dans le sol. Avec qui on a fait des tests aussi avec plein d'agriculteurs, voilà. Et donc on a fait aussi notre grosse partie en fait qui est sur le traitement de l'eau en fait parce que le charbon a été longtemps utilisé et il est encore maintenant pour tout ce qui est. Alors il n'est pas dans la purification, il est dans le filtrage et c'est un dépolluant. Donc en fait, on a travaillé avec des ingénieurs, des élèves ingénieurs de l'école d'ingénieurs de Grenoble qui ont fait tout un gros boulot pendant un an sur des techniques low-tech, de comment construire des filtres, qu'est-ce que ça filtre, est-ce que c'est efficace, avec quel type de bois c'est efficace. Ils ont aussi travaillé alors sur une partie qu'on a trouvé très intéressante, c'est sur si on devait réduire et faire un four plus petit. Et en fait, ils en sont arrivés à une conclusion en disant non, en fait, la taille de votre four, elle est bien, mais il faudrait que ce soit un bien commun. Et nous, on trouve ça vraiment très intéressant. Et en fait, c'est même vers là où on avait envie d'aller avec ce projet de four, c'est que ce soit soit mis en coopérative avec des agriculteurs qui en ont besoin, soit à fonctionner comme on fonctionnait avant avec avec l'alambic. Voilà. Donc, produire du charbon, mais se retrouver, faire un espace de rencontre où on va produire du charbon ensemble sur une place autour d'un village. Et nous, on a aussi toute une partie donc expérimentation, mais plutôt artistique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque année, en fait, on accueille aussi des élèves, des étudiants de l'école des Beaux-Arts de Lyon, en fait, à la cabane, où eux, ils font tout un travail sur la matière et sur comment la matière peut changer, comment on va la travailler pour que. Et ils viennent, en fait, utiliser notre four pour pyrolyser, parce que c'est un four à pyrolyse, en fait. des œuvres artistiques et qui souhaitent faire changer de matière, d'aspect. Donc voilà, il y a tout un gros travail.
Hein? Elles seront en quoi ces œuvres artistiques?
C'est des choses qui ont déjà été testées, non? Il y a eu des choses qui ont été en bois, en terre. Il y a des gens qui ont fait un travail avec des cheveux. Voilà, il y a des gens qui ont
des
fait tout un
ouais.
Il y a tout un travail aussi sur quelqu'un qui a fait un travail d'écriture sur du papier.
Parce qu'en fait, il reste l'encre.
Et en fait, il reste l'encre en fait, et quand le papier est assez épais, en fait, on arrive à lire, le papier se carbone, hein, il y a vraiment du carbone, et on arrive à lire. Donc il y avait tout un travail, elle faisait tout un travail sur la trace, sur. Donc voilà, il y a toute une partie artistique qu'on creuse aussi. Et puis nous aussi, en tant qu'artistes, on creuse aussi cet univers en fait des charbonniers, de la forêt, de cet espace un peu. En fait, moi, ce que j'aime, c'est quand j'arrive dans une forêt, en fait, c'est que j'ai l'impression d'être chez moi. Hop, on s'installe et tout de suite, on va vite, je sais pas, une espèce de sentiment de liberté, de pouvoir se dire, bah oui, mais c'est. Voilà, même si ça reste un lieu privé, c'est quand même. Enfin, pour la forêt, en fait, je pense que ça reste un bien commun. Même si c'est des choses privées, en fait, c'est quand même ce qui nous permet de respirer, qui crée tout un équilibre, tout ça. Et en fait, donc voilà, nous, on a continué à faire des performances en forêt avec ce projet de charbon. Et donc c'est toute la partie divagation, où là, il y a toute une partie où on invite en fait des gens à passer 24 heures avec nous. Le temps d'une charbonnière, parce qu'en fait le four maintenant il met 24 heures pour produire à peu près 150 kg de charbon. Et en fait, pendant cette veillée, il s'y passe plein de choses, et notamment donc de la performance. Alors, c'est un ensemble, la performance elle dure vraiment 24 heures, quoi. On n'est pas juste sur. Il y a un bout de concert, un bout de. Même s'il y a des moments où on peut avoir cette lecture-là, nous on la considère comme un ensemble parce que c'est vraiment. On convie les gens dans une clairière pour venir partager un espace de création.
Donc vous faites ça chaque année du coup?
Ouais, on fait ça. En fait, là, ça va faire la troisième année où on inscrit vraiment ça et puis ça commence à vraiment être inscrit dans dans la vie triévoise et les alentours. Et après, donc nous, il y a toutes ces choses en fait qui sont sorties de cette histoire de charbon. Elles sont vraiment. En fait, Culture Ailleurs, on est beaucoup en lien avec les questions d'immigration, de circulation, de traversée de frontières. On a travaillé avec d'autres communautés aussi autour de Grenoble sur des gens qui sont. En transit ou qui sont vraiment en lien très fort avec les problématiques de précarité, etc. Et dans le projet du charbon aussi, en fait, tout ça, c'est ce qui nous y a amené aussi, c'est ce lien justement avec l'immigration italienne qui est venu marquer énormément finalement le territoire. Le territoire de. Enfin, j'imagine, mais pas que notre territoire à nous, mais. Notamment, en fait, en tout cas, dans le Trièves et puis sur tout le plateau, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a interpellés, quoi. Peut-être tu peux en toucher un petit mot.
Alors, peut-être juste dire comment moi, j'ai pris ma place dans le travail collectif. Moi, ce que je trouvais intéressant dans cet ovni, hein, en quelque sorte, ce serait intéressant que vous puissiez tout à l'heure au moins le parcourir, parce que... C'est qu'on est sur un livre hybride, on ne sait pas trop ce qu'on a dans les mains, c'est assez troublant, vous allez voir. Et donc, ce n'est pas un livre avec des savoirs experts. C'est une expérience en partage et c'est une aventure collective. Et donc, ça supposait que pour que. Alors, il y a des photographes, des plasticiens, des chercheurs, etc. Et que chacun essaie d'apporter sa modeste contribution à une œuvre collective. Et ces charbonnières, c'est aussi ça. C'est effectivement un temps qu'on partage en forêt. Et je dirais que c'est l'expérience collective de ce moment un peu ritualisé qui a généré des pratiques d'écriture un peu originales. Et moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille, je tourne, disons, autour de la question du charbon de bois. je suis historien de formation, mais je suis aussi beaucoup sur les problématiques d'ethnologie, d'anthropologie. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'expérience des populations subalternes, hein, que ce soit celle du monde paysan ou des populations immigrées, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les sans-voix ou les sans-parts, comme dirait Jacques Rancière. C'est-à-dire des groupes sociaux minorés qui n'ont pas forcément voix au chapitre. Et la figure du charbonnier est fascinante de ce point de vue-là, parce qu'effectivement, c'est... c'est l'homme de la forêt, ou la femme de la forêt d'ailleurs, hein, parce que c'est pas un métier d'homme, c'est un métier qu'on fait en famille, et que les épouses manient la hache autant que les hommes. Et on a des très belles reproductions de femmes italiennes sur les chantiers, pas qu'italiennes d'ailleurs, hein, aussi espagnoles. C'est un métier de la migrance, comme on disait, c'est-à-dire de travailleurs saisonniers qui se déplacent en forêt. Donc, et puis la forêt, c'est un monde opaque, on peut disparaître. Donc effectivement, c'est des groupes sociaux qui, sur lesquels la société englobante, le monde des villes, le monde intellectuel, les poètes, les artistes, les journalistes ont projeté des fantasmes. Et depuis la plus haute antiquité, depuis Aristophane. Alors ce qui est important de rappeler, après je te refais un petit dialogue. Hein. Moi ce qui m'intéressait, c'était la technique en meule, donc la technique dite traditionnelle, c'est le charbonnière en forêt, elle est mise au point, on en est certain, au cours de l'Antiquité. Hein, grosso modo, on sait que le 5e siècle avant Jésus-Christ, on a déjà des traités savants qui décrivent des meules charbonnières. Donc, on est dans le Diwa, donc Pline et consorts ont écrit là-dessus, Théophraste, les intellectuels grecs, donc montrant qu'il y avait une technique de carbonisation en meule qui correspond grosso modo à celle que pratiquaient les Italiens encore dans les forêts de la région dans les années 1930. Donc là, ça donne le vertige, quoi. C'est-à-dire presque 2500 ans de technique. Alors évidemment, ça a un petit peu évolué, mais donc ça met de l'épaisseur historique. Et alors, je disais dans le Diwa, dans notre région, dans le Vercors, dans les Alpes occidentales en général, donc on est quasiment certain, d'après les travaux des archéologues, voilà, que dans le premier millénaire avant Jésus-Christ, il y a de la fabrication volontaire de charbon de bois. Les sources documentaires attestent d'une exploitation industrielle de nos forêts dès le Moyen-Âge, hein, et surtout à l'époque moderne, notamment pour la métallurgie, donc 17e, 18e siècle, hein, c'est l'âge d'or de la métallurgie dauphinoise, donc là il y a des cohortes de charbonniers en forêt, et puis le temps des Italiens, c'est... alors, il y a des Italiens en forêt dès le 18e dans la région, mais ça correspond grosso modo à l'époque de l'immigration de masse, c'est les années 1850-1950. Et les derniers charbonniers de la région, qui cuisaient le charbon de bois en forêt à l'ancienne, qui venaient de la province de Calabre, donc plutôt en Italie du Sud, c'était dans la forêt des Chambarans, hein, donc près de Roibon, frontière de la Drôme et de l'Isère, dans les années 1970. Donc ils vivaient dans des caravanes. Et donc c'est très fascinant de voir que ce métier de travailleur semi-nomade qui, dans les représentations collectives, peut s'apparenter à la figure du Romain Michel, hein, d'un certain point de vue, esthétisé aussi comme ça, vient nous interpeller. Alors moi, je savais pas trop comment prendre ma place dans le livre, et j'ai dit je vais pas produire un énième discours, bon, j'ai dit publié dans des revues savantes, etc. Je me disais, mais là, il faut qu'on aille ailleurs, culture ailleurs. Et donc moi, je suis parti de quelque chose qui était plus... ce projet, il est né quelque part pendant le confinement. Donc, on est tous des lions en cage, là, à tourner en rond dans nos appartements, à s'ennuyer. Donc, on a besoin d'évasion. On avait commencé un petit peu à en discuter. Ouais. Vous aviez un peu lancé la proposition. Je me suis dit, moi, je ne peux pas écrire en historien là-dessus. Donc, je vais essayer de dire je. Mais un jeu non narcissique, l'idée c'était pas d'étaler un savoir, c'était de dire tiens, qu'est-ce qui me relie, et comme tu l'as très bien dit Julien, qu'est-ce qui nous relie à la forêt et à l'ambassadeur de la forêt qu'est le charbonnier ou la charbonnière. Et donc moi je suis parti de mon enfance où je crois me souvenir que mes grands-parents m'avaient offert un bouquin de contes d'un auteur romantique allemand qui s'appelle Wilhelm Hauff, qui est comme souvent les romantiques, qui projettent des fantasmes sur les sociétés rurales. Hein. Je vous renvoie à Georges Sand, qui a aussi beaucoup écrit sur les charbonniers. Et moi, je me suis dit, tiens, Wilhelm Hauff a probablement structuré mon imaginaire d'enfance. Moi, j'ai passé mon enfance dans le Jura, pays de forêt, à la frontière suisse, à la campagne, dans mon village. Il y avait des arbres partout. On taillait la zone en forêt. Puis moi, pendant que j'étais collégien, c'était échappé à l'aliénation de l'éducation nationale. J'allais respirer en forêt, vraiment comme un espace de la rupture. Et donc je me suis dit, tiens, je vais un peu raconter mon petit rapport à la forêt. Puis ensuite, tout ce qu'on a pu... parce que c'est aussi une rêverie collective. Bon, alors, la rêverie au sens de Bachelard, d'imaginaire des sens, du vent, de l'eau, la forêt comme grande réserve d'imaginaire. Et puis la figure du charbonnier. Alors, il y a plein de travaux, 18e siècle, à l'époque pré-démocratique, autour de l'avènement de la... des premiers modèles de démocratie, bon, théorisés par Rousseau, etc. Mais on voit apparaître ici ou là, dans le contexte de mouvement des Lumières, des auteurs qui peuvent être des notables, des avocats, des hommes de lettres, notamment dans la région de Grenoble, mais on trouve la même chose en Bourgogne, on trouve la même chose en Angleterre. Donc c'est un mouvement philosophique européen qui place sur la société des travailleurs forestiers, bûcherons et charbonniers, une espèce de modèle d'hyperdémocratie horizontale. Il n'y a pas de chef, c'est vraiment le... Et avec vraiment l'idée de l'agora forestière. Alors c'est assez paradoxal qu'au XXIe siècle, dans un contexte où nos démocraties sont malmenées, hein, partout dans le monde, eh bien l'idée c'est de réinventer des possibles en forêt, et on joue à ça quelque part. Ouais. Alors moi je me suis dit, tiens, il faut que j'arrive à rentrer là-dedans par cette porte-là. Qu'est-ce que nous fabriquons comme être collectif dans ce contexte de l'expérience forestière
Et c'est vrai que nous, dans cette expérience-là, elle est un peu, on va dire, elle est plus structurée, enfin, je ne sais pas comment structurer. Bon, quand on arrive en forêt, c'est une sorte de, ce que je disais tout à l'heure, de liberté. Mais je repensais à Travers Corps, qui, eux, ont pas du tout ont la volonté de faire des charbonnières, mais sur des temps longs, et de sans subvention, en restant vraiment libre. Et justement, pour ça, en fait, pour pouvoir rester dans ces espaces... ouais, de jeu en fait, ouais, de réinventer de comment ça fonctionne, sans chef, sans se dire tiens comment, qui, quoi, non, c'est en fait tout est centré autour de finalement la meule, quoi.
Et c'est effectivement assez troublant de voir que ça sert à rien de faire du... Bon, vous trouvez des utilités désormais, y compris sur le terrain d'un modèle plus écologique, mais disons que ce que propose à Travers Corps comme expérience collective, hein, qui peut fédérer jusqu'à plusieurs milliers de personnes le temps de la fête où on défourne la charbonnière, c'est un rassemblement autour d'un moment ritualisé qui dure 3 semaines en forêt. Donc des personnes dorment dans un campement un peu improvisé.
Ils sont d'ailleurs interviewés dans
le livre. On joue sur les codes du jour et de la nuit, c'est-à-dire qu'on va travailler la nuit, et ça c'est très intéressant. Mais depuis Aristophane a vraiment écrit des choses très, très, très intéressantes sur la figure du charbonnier qui faisait peur aux citadins, ou au monde paysan classique. Bien que l'opposition entre genre du terroir et genre de la forêt soit une construction intellectuelle, hein. Il n'y a pas de fait, c'est en osmose tout ça. Mais dans les discours qu'on a pu produire sur la ruralité, on a aimé opposer la figure du paysan qui se lève tôt, se couche tôt et travaille sous le soleil à la figure du charbonnier qui travaille la nuit, puisque la charbonnière, comme tu l'expliquais, à partir du moment où elle va cuire pendant 3, ça dépend de son volume, mais disons entre 15 jours et 3 semaines, il faut la surveiller 24 heures sur 24. Y compris la nuit. Et donc, on a des textes, alors, dans la littérature européenne médiévale, je vous renvoie à Chrétien de Troyes, par exemple, au cycle arthurien, la figure du charbonnier fait peur au gentilhomme qui s'est perdu en forêt la nuit. Et il est souvent, alors en plus, il a le visage mâchuré de suie, puisque c'est une activité quand même polluante, qui génère plein de fumée, etc. Donc, c'est un être hirsute, c'est un homme sauvage, c'est un ambassadeur du sauvage, mais il connaît la forêt par cœur. Donc, par exemple, le souverain, qui c'est François Ier, qui s'égare en forêt lors d'une partie de chasse, est sauvé par celui qui est tout en bas de la hiérarchie sociale, donc il y a un renversement des valeurs, le souverain sauvé par le minuscule, et qui le guide dans la forêt. Donc c'est une figure très plastique, passionnante, on peut lui faire dire plein de choses, et donc moi j'avais essayé de chercher ça, et donc de retrouver ces textes aussi du XVIIIe siècle, alors il y a un texte fascinant, dont je ne connais pas l'origine, on peut supposer que c'est peut-être un cercle, on va dire pré-maçonnique, ou d'un notable grenoblois qui décrit assez finement une société de charbonniers du massif de la Chartreuse, hein, donc c'est la confrérie des charbonniers de Caix en Dauphiné. Donc Caix, c'est une petite commune des contreforts de Grenoble, hein, c'est à 25 minutes de Grenoble sur le massif de la Chartreuse, et là on décrit ce monde assez, assez fascinant, et moi je me suis dit tiens, je pars un peu tout ça, et puis l'autre puisque c'était aussi un projet artistique, l'autre œuvre sur laquelle je me suis inspiré, alors moi c'est un de mes films Le Culte. C'est un film de Jean-François Stévenin qui est tourné dans le massif du Jura, qui s'appelle Passe-Montagne. Mais alors, on s'en fout que ce soit le Jura, parce que Stévenin, c'est un peu comme le chanteur Jean Lemurat, le terroir, il s'en fout, il le disloque, c'est-à-dire que c'est pas une mythologie, c'est pas le terroir enraciné, il filme le Jura à l'américaine, à la Cassavetes. Et donc c'est une dérive dans la forêt entre Jacques Villeray et Jean-François Stévenin. Villeray est tombé en panne de bagnole. Il va être dépanné par Stévenin, qui est un garagiste préoccupé par tout sauf réparer des voitures, et ils vont ensemble, une fois qu'ils se sont apprivoisés, partir dans la neige, dans la forêt, chercher une combe magique dans laquelle il y a un sapin. et ce sapin, on va en faire quelque chose qui est une espèce d'œuvre. Et je me suis dit, tiens, je pars de ça, quoi. Voilà, la dérive forestière, la rêverie et la dimension collective du travail. Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est qu'aujourd'hui, ça continue. C'est-à-dire, bon, je me suis beaucoup intéressé, notamment la. Alors, puisque Julien parlait de l'aspect technique, je vais pas rentrer là-dedans devant vous. On pourra peut-être tout à l'heure parler un peu d'immigration italienne, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'était aussi les représentations de la figure du charbonnier. Et c'est vrai que j'ai épluché comme ça un certain nombre de grands auteurs, hein, de Victor Hugo, Balzac, tout le monde, Flaubert, tout le monde a écrit sur la figure du charbonnier, hein, au XIXe siècle. Jusqu'à des auteurs plus contemporains qui résonnent avec le Diois, comme Jean Giono, évidemment, bah, l'homme qui plantait les arbres, dans l'homme qui plantait les arbres, il y a un charbonnier, qui n'a pas forcément le bon rôle, hein, en l'occurrence. Et jusqu'à des œuvres très contemporaines, Damasio, par exemple, dans Les Furtifs. Alors ça vous aura peut-être échappé, mais comme Damasio, il a vécu quelques temps dans le Vercors, il connaît bien l'équipe des charbonniers du plateau. Et il se trouve qu'il y a une scène, à un moment, où on a un personnage qu'on peut peut-être reconnaître, qui est un des avatars du roman, mais qui est un personnage qui a une existence réelle sur le plateau, et qui, lors d'une fête charbonnière, se débarrasse de ses colliers, là, émetteurs, qui sont en fait ses outils de suivi numérique, dans le cadre d'un rituel forestier dans une charbonnière. Donc ça résonne jusqu'à la littérature du XXIe siècle. Donc voilà, il y a plein de choses à dire là autour. Et donc on avait, moi j'étais ravi de participer à cette belle proposition, nourrie de photographes.
Ouais. C'est vrai, incroyable. T'as bien insisté sur le fait que c'est vraiment un travail collectif, c'est-à-dire qu'on a vraiment proposé. On a proposé à Philippe, on a proposé à David Houben, des scientifiques, en disant qu'est-ce que vous voulez. Vous connaissez notre univers, le charbon, là où on en est, etc. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire autour de ça? Et pareil sur les photographes. Donc il y a des séries de photos où il y a vraiment des photographes qui sont venus suivre, on va dire, notre pratique contemporaine de charbonnier. Et puis il y a des parties où eux ils ont vraiment proposé leur vision en fait artistique de moments passés ensemble en forêt, leur vision artistique en fait en tant que photographe. Il y a aussi un photographe qui lui est venu vraiment faire une résidence d'une semaine où là il connaissait pas le territoire, du coup il nous disait moi j'irai bien là, enfin il fait tout un travail sur les portes d'entrée du Trièves. Donc voilà, il apporte lui vraiment un regard de création en fait sur l'ensemble de ses photos. Il y a une dessinatrice Fabienne qui elle a fait tout un travail donc à partir de ses photos, mais sur un travail à partir de carbone en fait, de superposition de photos qu'elle redessine, qu'elle revient travailler sur les carbones. Donc ça c'est tout un travail qui est dedans. Il y a aussi Vincent qui est journaliste au Postillon et qui est venu plutôt faire des... Alors lui c'était pas mal parce qu'au début il disait mais vous m'avez invité mais j'ai du mal à trouver ma place, je sais pas ce que je viens faire avec vous. Et puis à un moment donné on a dit non mais il faut que tu fasses ce que tu as l'habitude de faire. Il a dit bah, tiens je vais aller faire des interviews longues. Et comme vous n'êtes pas seulement les charbonniers, qu'il y en a... donc il a été interviewé des gens d'à travers corps. La vieille génération, la nouvelle génération, et nous aussi derrière. Donc,
ces invitations, elles étaient faites pour la création de ce livre, ou ce livre est venu après?
Non, c'était vraiment le projet du. On a eu travaillé avec, donc on a été charbonné pendant un bon moment à Terre Vivante, parce qu'ils avaient des arbres qui coupaient, qui étaient malades. Et donc la responsable de la partie édition est venue voir notre travail et on lui a expliqué de là où on en était, etc. Elle a dit ah ben, ce serait peut-être intéressant de travailler sur un bouquin.
C'est cette personne-là qui a fait ce livre, la mise en page, le choix de cette double couverture?
Non, ça c'est... alors eux, ils nous ont juste dit ça serait intéressant qu'on fasse un bouquin, et nous on a dit ah bah justement on y a été à fond parce que c'est pas évident
aussi, c'est... tout est expérimental en fait, ouais. Ce que vous racontez
là après nous sur la partie on va dire graphisme, ils ont... donc là nous on a souhaité travailler avec des graphistes avec qui on travaille pour qu'il y ait vraiment un travail de création en fait et dans le, on va dire dans l'objet, dans le fait qu'il soit réversible, etc., dans la mise en page. Vous verrez, en fait, il y a des photos qui sont à des moments coupées en deux, sur, qui renvoient sur d'autres pages, des moitiés de photos, etc. Donc il y a vraiment tout un gros travail de création graphiste, graphique.
Sur la dimension mémoire et patrimoine, il y a quelque chose qui m'intéressait. Moi j'ai eu la chance de rencontrer, donc au début de mes premières enquêtes, les derniers charbonniers italiens du Vercors. D'ailleurs, Daniel Benacchio est décédé il y a un mois, c'était une figure de Saint-Marcellin. Donc lui, il est né en forêt, hein, vraiment, c'était... Alors je me suis dit, comment on échappe à la nostalgie et à quelque chose qui serait, vous savez, cette ethnographie de la beauté du mort. Voilà, le piège du patrimoine, en définitive, c'est-à-dire que... Tous ces livres qu'on trouve un peu partout sur les métiers d'antan, pittoresque, le chiffonnier, et pas tomber dans ce piège-là et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous relie à cette activité, voilà, et donc de choisir des modes d'écriture et d'interrogation un peu différents. Alors, pour l'exercice, moi, j'ai repris des fonds, par exemple, documentaires que vous pouvez regarder, vous pouvez même les trouver sur le web, hein, si vous avez envie de poursuivre la réflexion avec nous, et notamment des films, les premiers films qui ont été faits sur d'ethnographie de sauvetage, hein, comme c'était dans les années... ça commence en Angleterre dans les années... on va dire des années 60 en Angleterre, et puis après, il y a le tournant de 68, quoi. Le retour à la Terre post-68, l'ethnographie, les grandes... la mission du patrimoine ethno, ensuite, la jeunesse des parcs naturels régionaux, qui ont besoin aussi de mieux comprendre leur population. Et donc, il y a beaucoup d'enquêtes documentaires, soit radiophoniques, soit ethnographiques, soit des films. Et j'en ai trouvé quelques-uns. Il y a des figures comme ça, assez fascinantes, de Agapi, un charbonnier des Ardennes, qui était personnage mis en scène avec une barbe blanche, des cheveux longs, qui vit la figure de l'homme sauvage, mais qui est un type avec une profondeur spirituelle assez étonnante. Donc le charbonnier poète, en même temps très croyant, très pieux, qui allait aider les curés pour desservir la messe. Enfin, des personnages comme ça assez incroyables qu'on retrouve. Et je me dis, tiens, donc alors il y a le pittoresque, et au-delà du pittoresque, qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre de cette expérience-là, voilà, qu'est-ce qu'elle nous raconte, et c'est vrai que alors on peut porter un regard critique, hein, sur ces grandes aventures collectives qui se font dans la forêt, mais je pense que, alors, eu égard à la crise du rapport au travail qu'on vit en ce moment, où le monde du travail s'impose à nous, y compris la nuit désormais, puisqu'on regarde nos mails, nos textos le soir à la maison, il y a une confusion totale entre le temps privé, le temps de la vie professionnelle, là, ces expériences de vie intense en forêt, c'était aussi des temps de rupture. Et alors, il y a un géographe grenoblois dont j'ai oublié le nom, mais ça me reviendra, qui a beaucoup réfléchi sur le rapport que nous entretenons à la nuit. Et ce travail collectif en forêt, qui est pourtant un labeur, hein, parce que c'est du job de faire ces charbonnières, c'est pas anodin, mais le faire joyeusement, collectivement, c'est aussi une manière de réfléchir à d'autres possibles. Alors, évidemment, la forêt, comme tu le rappelais, c'est un espace privé. Quand bien même est-il géré par même si c'est un commun, hein, quelque part, c'est même les forêts domaniales qui sont gérées par l'Office national des forêts, etc., sont pas en accès libre. Hein, on peut s'y promener, mais on peut pas faire ce qu'on veut dedans. Donc ça suppose des autorisations. Et évidemment, tout ça s'effectue aux limites de la loi. Hein, il y a un jeu avec la loi, il y a un jeu avec la temporalité, avec donc quelque chose un peu d'inspiration libertaire qui n'est pas sans raisonner avec les ZAD. Alors les ZAD, ça fait peur, hein, les zones à défendre, mais il n'empêche que c'est aussi, au-delà de l'opposition frontale avec l'aménagement du territoire, c'est aussi des expériences. Et donc il y a une forme de poétique. Et moi, ça m'a intéressé d'essayer de comprendre ça, de me dire que finalement, au XVIIIe siècle, ces intellectuels qui vont... Ils sont pleins de fantasmes, hein, les Diderot, évidemment qu'ils connaissent rien à ces métiers techniques, mais ils sentent quelque chose de l'ordre d'un autre rapport au monde, qu'ils nous donnent en partage.
Et puis moi, je rebondis en fait là-dessus, c'est quand on a fait notre première charbonnière, nous, dans le Trièbe. Donc on a demandé l'autorisation à un privé qui nous a dit oui, ok, vous pouvez vous mettre là. Et on lui a dit bon, il faut qu'on construise une cabane parce qu'on va rester un moment ici. Et puis, en fait, on a construit une cabane, mais qui n'est pas une petite cabane, finalement une grosse cabane. Et je rebondis là-dessus parce qu'en fait, on était tellement bien, on était tellement à fond dans notre projet que dans ces espaces où on disait « Allez, ouais, on va faire ça », et en fait, que normalement, on aurait dû demander des autorisations pour construire la cabane, avoir un permis, etc. Et en fait, mais il y a eu une telle manière de fonctionner un peu informelle, avec finalement des anciens qui connaissaient le métier, parce qu'il fallait qu'on écorce les arbres pour construire la cabane, il fallait un coup de main parce qu'il fallait un tracteur pour ramener ceci, ramener cela. Et en fait, du coup, et ben le jour du vernissage, déjà le propriétaire, il est arrivé, il nous a dit « Vous êtes vraiment des tarés parce que... » c'est pas une petite cabane que vous avez faite. Mais surtout, en fait, il y a l'équipe communale qui est arrivée, qui a dit, mais en fait, effectivement, oui, mais elle va rester. Et c'est passé par des chemins, en fait, qui voilà, on aurait pu aller faire notre demande d'autorisation de permis, on dirait, ah, t'inquiète, on va faire ça. Et en fait, ça s'est construit, en fait, finalement, avec les gens, qui des habitants, les... puis autant le parc, parce qu'en fait, même les arbres nous ont été marqués par l'ONF pour construire la cabane, donc ils savaient très bien qu'on n'allait pas faire une petite cabane. Bon, c'est une très belle cabane en fuste.
C'est celle-ci ?
Ouais.
Ouais,
voilà.
C'est comme
une
maison.
C'est une maison. Donc.
Ouais, ouais, mais ça reste un lieu maire. Après, on en a.
On
l'a fait inscrire après sur un sentier. On a fait un panneau en émail autour pour expliquer aussi tout le projet et l'histoire aussi des charbonniers du Vercors. Enfin voilà. Et effectivement, c'est ces manières-là de fonctionner dans ces espaces-là, dans ces clairières un peu de liberté où on se dit waouh, allez, ça fait, on a envie de tout faire. Quoi, hein, mm-hmm. On se sent tellement bien.
dans les moments, par exemple, alors, il ne faut pas non plus idéaliser. C'est vrai que là-dessus, on est dans une expérience de collective des années 2020. Donc, on a, une fois que l'expérience de la vie en forêt est terminée, bon, on va retourner prendre nos douches à la maison et tout va bien. Hein. C'est vrai qu'il ne faut pas esthétiser le travail en forêt, qui était un travail très, très dur et puis qui ne rapportait pas forcément beaucoup d'argent. Puis, il y avait des problématiques. Alors, qui sont toutes celles liées à l'immigration, c'est-à-dire des problématiques de xénophobie, de violence sociale, etc., etc. Donc, loin de nous, hein, d'idéaliser tout ça, mais il n'empêche que le fait de pratiquer la gestuelle, et alors, il y a des marins dans l'Assemblée, par exemple, vous êtes de quart la nuit, hein, à 3h du matin, t'es sous ta tente, et on va te chercher, c'est ton tour, et pendant 2h, tu dois veiller la charbonnière. T'as une responsabilité terrible. Alors, il faut imaginer que ça peut être par fort vent du sud, hein, dans la région, le vent du sud, c'est terrible, avec risque d'incendie, d'accès, parce que la charbonnière en four, elle est vraiment soumise à tous les aléas des éléments, ou des pluies diluviennes, par exemple, à un moment d'orage. Et c'est vrai qu'il y a eu fréquemment des incendies, hein, en période de sécheresse, etc. On a retrouvé, dans la région, dans le Luberon, donc en définitive, il y a aussi un rapport aux éléments assez. Et donc vous êtes debout tout seul dans la nuit avec votre petite lampe, et là vous avez ce machin gigantesque devant vous qui fume, et c'est votre responsabilité de le transmettre à l'équipe qui va vous relayer, et comme sur un navire, quoi, la nuit on fait le quart, quoi. Je trouve ça très beau.
Les quarts, ils sont à plusieurs quand même.
Oui, oui, on est deux ou trois, voilà.
Ça dépend. Ah oui, ça charbonnière. Tout le monde est bien fatigué.
Oui, à la fin, ça peut être.
Ça
peut être... Et puis s'il pleut, voilà, il y a moins de monde qui sont, parce que c'est du bénévolat tout ça évidemment. Donc,
voilà
ce qu'on voulait vous dire.
Si vous avez des questions.
Est-ce qu'il y a des questions, les gens qui veulent réagir?